about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Charlotte Garçon, Thierry Chaise, Julien Gester. Nous allons parler ensemble de Un jour de pluie à New York de Woody Allen, de Bacurao de Kleber Mendoza Filho et Giuliano Dornel, Ne croyez surtout pas que je hurle de Frank Beauvais, et puis pour une fois ce sera mon coup de cœur pour la trilogie de Long Island, ressortie en salle des trois premiers films d'Al Hartley. Et nous ouvrons cette dispute avec le film un peu maudit tout de même de Woody Allen, Un jour de pluie à New York, qui est en salle depuis 10 jours en France, mais toujours pas sorti aux États-Unis, le réalisateur étant en conflit devant les tribunaux. Enfin, ça en prend le chemin avec son producteur Amazon. Il ne s'est pas sorti aux États-Unis, c'est aussi en raison du scandale provoqué par la remontée à la surface d'accusations d'abus sexuels envers le cinéaste. On est habilité à parler que de cinéma ici, donc c'est ce qu'on va faire ce soir encore. Dans ce film, on va suivre le week-end mouvementé et donc plus vieux de deux étudiants qui pensaient passer une fin de semaine en amoureux à New York. Ashley, qui devait juste faire une interview d'un grand cinéaste pour la Gazette de la Fac, mais rien ne va se dérouler comme prévu.
I got an interview with Roland Pollard.
Oh my gosh, that is amazing.
It's in Manhattan.
We're always talking about going into Manhattan for a special weekend. This is going to be absolutely fantastic.
If it doesn't rain. You're by far the most interesting American director.
Would you like a scoop?
I can't make lunch.
Why not?
He's going through this real artistic crisis. It's a scoop.
He's just out here trying to create a modern film noir classic.
Okay, all right.
Do you want to be in it?
Hey.
Should we do this? Hey, are you going to keep your mouth closed?
I have a girlfriend, Shannon. I don't think I can do this.
Scene 19, take two.
Action. Ashley.
Hey.
You're here.
I'm here.
Ashley, what's going on? You said you were going to call me 30 minutes ago.
It's a $70 million movie and Raleigh's very unhappy with it.
You call him Raleigh?
Yeah, and Ted and I, we have to find him before he has one of his crazy fits.
Who's Ted?
Was that your boyfriend?
Yeah, he's a little eccentric.
I'm a gambler. I don't know how else to put it.
There's something romantic about gamblers.
Yeah, maybe in movies, but this is real life. She's apparently onto a very big story. She takes her job very seriously.
Hello, can I help you?
Oh my God, you're Francisco Vega.
Is that good or bad?
Hey, Ashley.
I can't talk to you right now.
What could possibly be so secretive about that?
Unless there's some funny business going on.
Unless there's some funny business going on. This is real life.
Real life is fine for people who can't do any better.
Supposed to be one tiny little lousy hour interview. Instead, we lost the whole weekend.
I shouldn't imbibe so copiously. I become passionate, aggressive, absurd. I just...
Un jour de pluie à New York, sur les écrans français de quelques autres pays, depuis quelques semaines, et toujours pas aux États-Unis. On va faire un premier tour de table pour résumer votre impression. Charlotte Garçon.
Je trouve que c'est une mélancolie qui est encore trop timide, trop douce et peut-être pas encore assez amère à mon goût.
Thierry Chaise.
C'est le film que j'attendais pas ou plus.
Ah, et Julien Gester qui adore ce moment du petit commentaire qui prélude à la longue critique.
Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup ce moment.
Le très film. Bien. Le film, voilà. Le film également.
Ouais, on peut dire ça, mollement. Ouais.
Mollement. Bon, plus que mollement peut-être alors, Charlotte Garçon.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses extrêmement agaçantes. Je pense qu'elles sont un petit peu condensées pour moi dans cette bande-annonce. C'est-à-dire une écriture du mot d'esprit qui pour moi ne fonctionne plus du tout. Alors,
Et pour quelle raison ?
Alors, justement...
Compliqué, c'est cette question, ouais.
Bien sûr, non, mais je me pose la question. Quand je dis agacement, c'est parce que j'ai l'impression d'un Woody Allen en Aung San Suu ramolli. Alors, je dis Aung San Suu parce qu'on a plaisir à voir toujours revenir aux mêmes endroits et aux mêmes endroits narratifs. Le réalisateur coréen qui semble faire des combinaisons comme ça à l'infini, des mêmes lieux, des mêmes histoires, des mêmes points de rencontre. Et je me pose justement la question de pourquoi est-ce que je ne supporte plus cela de la part de Woody Allen.
Il n'est pas encore à 53 films, Aung San Suu, même s'il s'en rapproche chaque jour.
Je pense qu'il il ne pense pas autant. Il ne pousse pas non plus aussi loin ce choix radical, c'est-à-dire d'avoir arrêté quelque part son développement imaginaire à Manhattan, le film de 1979, qui pour moi était déjà une espèce d'auto, à la fois d'apogée et sans doute déjà de cristallisation trop mythifiante, quoi. C'est-à-dire c'était, voilà. Et depuis, j'ai l'impression qu'il ne peut que revenir dans ces mêmes, dans ce New York toujours aussi suranné, toujours avec ce même regard nostalgique et un effet de, j'allais dire, de place dropping.
Attention.
Donc on dit name dropping quand on parle de.
Bien compris.
Voilà. Et donc là, j'ai eu l'impression, pareil, qu'il fallait encore aller dans des palaces, dans des appartements face à Central Park sur la 5e Avenue, etc. Et donc il y a un effet d'agacement par rapport à cela, mais heureusement, il y a quand même autre chose dans le film aussi.
C'est mes camarades. C'est pas mal. D'habitude, on garde les bémols pour la suite. Vous, c'est l'inverse. Vous gardez les points positifs.
Oui.
C'est formidable. Thierry Chaise.
Moi, je suis content quand il revient sur des territoires connus. Parce que là où j'ai du beaucoup, beaucoup de mal, c'est quand il va sur des territoires méconnus. Ces passages, moi, à Barcelone, à Rome et tout ça me.
Et à Paris.
Et à Paris.
On attend Saint-Sébastien, la semaine prochaine.
Et en fait, on a surtout peur qu'il n'y ait plus que ces passages-là et qu'ils ne tournent plus aux États-Unis. Alors. Oui, moi j'attendais du coup pas ou plus ce film-là, parce que j'y ai quand même pris du plaisir. Je suis entièrement d'accord avec ce que Charlotte a pu dire, mais moi c'est des mini-bémols par rapport au fait qu'il a retrouvé avec une nouvelle génération de comédiens une espèce de plaisir à les diriger. Très souvent dans les films de Woody Allen, quand Woody Allen ne joue pas, il y a l'imitateur de Woody Allen qui rend le film très antipathique pour moi et très pénible. Je trouve que là, ça échappe à ça. Qu'à la limite, Woody Allen, c'est Elle Fanning dans le film, plus que Timothée Chalamet. Il y a ce plaisir de retrouver, en effet, ces bons mots, ces scènes avec, d'un seul coup, des seconds rôles. Je pense notamment à la mère de Timothée Chalamet qui, à un moment, je vais pas dévoiler ce qu'elle fait, mais qui dévoile un peu un pan de sa vie face à lui. Et puis, il y a ces deux trajectoires parallèles. Donc Elle Fanning, son personnage, elle qui est une apprentie journaliste et qui va, en allant rencontrer un metteur en scène, imbu de lui-même, partir dans un New York, voilà. Et puis il y a son petit copain qui va traîner son spleen de rendez-vous en rendez-vous. Et je trouve que ces deux rythmes fonctionnent plutôt bien. Oui, j'ai l'impression je reviens à la maison en voyant ce film-là. Je vois un New York, en effet, qu'il est sans doute le seul à filmer, que d'un seul coup, c'est comme une Madeleine de Proust qui revient. Et vraiment, moi, je pensais, même les derniers films qu'il a fait aux États-Unis comme Wonder Wheel, tout ça, je trouve qu'il y avait quelque chose, dès que c'est, que ça n'est pas de la comédie, en tous les cas, de la comédie avec autre chose, il saute aussi de là. Je trouve, il a retrouvé, moi, une seconde jeunesse, avec plein d'imperfections. C'est un peu l'autre face de la pièce, en fait. Voilà. J'ai des bémols, mais d'abord du plaisir.
Vous êtes un peu Charlotte Garçon. Julien Gester, sur ce film de Woody Allen.
On peut, pour reprendre un peu la formule de, ou en tout cas l'image de Thierry Chaise à l'instant, on peut dire gentiment qu'il retourne à la maison, ou peut-être un tout petit peu plus durement, qu'il aurait enfilé des vieilles pantoufles. Qu'il nous les fait réenfiler. Et c'est un peu ce qu'il fait depuis un certain temps. Je rejoins Charlotte Garçon là-dessus. Mais je trouve qu'il y a toujours une forme de suspense sur les films de Woody Allen depuis une vingtaine d'années, sur ce que contiennent véritablement les pantoufles en question. Mm-hmm. Parfois, c'est des épines. Parfois, elles sont pleines vraiment de pièges, d'épingles. Et parfois, c'est peut-être plus agréable. Sans forcément d'ailleurs que ce soit ça fasse décoller complètement les choses ou que ça renouvelle l'expérience de la pantoufle, mais j'entends par là que on sent chez Woody Allen, c'est, je trouve, particulièrement au cours des deux dernières décennies, des espèces de fluctuations de croyances, de désirs en ce qu'il filme, et ça a pu être ravivé par des voyages, cette croyance. un match point rejouait le pari sur le hasard de crimes et délits et faisait retomber la pièce de l'autre côté. Parce que c'était un film où il avait peut-être un peu plus la foi que dans le précédent, dans Melinda, qui était son dernier film américain avant quelque temps, qui était vraiment un exercice de jeu de massacre, de démantibulation, d'autopsie méchante de son cinéma. Et puis il a pu retomber de l'autre côté, du côté de l'aigreur, et un film de Woody Allen qui serait du côté de l'aigreur, ça a pu être sublime il y a 30 ans quand c'était Crimes et délits, parce que c'était encore un cinéma qui était plein de vigueur. Je pense que c'est pas loin d'être le sommet de son cinéma.
Je suis d'accord avec vous. Oui.
Mais aujourd'hui, c'est trop une petite musique pour piano mécanique qui tourne toute seule. Pour revenir à ce que disait tout à l'heure d'ailleurs Charles Gasson, moi je pourrais faire l'opposition avec Hong Sang-soo. On pourrait dire qu'il y a chez Hong Sang-soo, d'autres cinéastes ou chez un Romère par exemple, il y a quelque chose qui vient de l'intérieur quelque part, du vivant tel qu'il est capté, du présent des scènes, et qui fait signe reconnaissable par rapport au film précédent. Chez Woody Allen, depuis longtemps, on a plutôt le sentiment de quelque chose qui se surimpose de l'extérieur à tout ce qu'il filme, à tout ce qui rentre en jeu. Et c'est vrai que moi, cette musique d'écriture, mais aussi de mise en scène, de tempo, de swing propre à son cinéma, me fatigue plus qu'autre chose, à fortiori quand il est porté par des comédiens qui me passionnent pas toujours dans ce film-là, même si j'aime beaucoup Elle Fanning, par exemple, ou d'autres. Et là, je trouve que s'il y a quelque chose qui se rejoue, qui est, qu'en se confrontant souvent à la jeunesse, je pense à un film que je trouvais vraiment particulièrement médiocre dans cette veine-là, qui questionnait toujours ces questions de croyance, croire ou ne pas croire, etc., qui était Magic in Moonlight, voilà. Tout ce qui intéressait le film, Woody Allen dans le film, clairement, c'était le personnage d'Emma Stone. Et il mettait même ça un peu en scène sur le mode de, voilà, il y a cette fraîcheur, cette jouvence, cette innocence qui, même si elle ment, au fond, va ravigoter un peu tout ce qu'il y a autour, qui sent vraiment le rance, etc. Et là, le fait que ce soit le casting le plus jeune, je pense, peut-être de sa période en tout cas récente, si ce n'est peut-être de son cinéma en termes de moyenne d'âge, de sa filmographie, je trouve que ça produit quand même un effet, que ça donne un petit coup de fouet à quelque chose qui devrait être vraiment une revisitation de vieux clichés. Et il y a vraiment chez lui, quand on dit qu'il rentre à la maison à Manhattan, c'est pas seulement à Manhattan, c'est au film Manhattan, c'est même peut-être au final de Manhattan, qui est quand même une image un peu primale de son cinéma, un peu matricielle. C'est cette idée vraiment d'un visage jeune, aux joues rondes, les yeux encore pleins d'un optimisme qui, lui, l'a quitté depuis bien longtemps. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il revient à cette source de jouvence-là, on a quand même le sentiment que ça produit peut-être un peu d'électricité là où, par ailleurs, tout s'est éteint depuis un bon moment.
Moi, ça, l'électricité a dû agir sur moi, mais c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais devenu un spectateur quand même beaucoup moins assidu des films de Woody Allen depuis une quinzaine d'années que par le passé. Je crois que la période européenne m'a un peu éloigné. Surtout, j'ai eu du mal à faire mon deuil du Woody Allen acteur. Les films de Woody Allen sans Woody Allen, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai vu Match Point il y a 15 jours pour la première fois. Donc, vous voyez, j'essaie de rattraper un peu de retard, mais pas tous. Et donc, moi, j'ai assez aimé retrouver ses pantoufles. Et en même temps, il est évident, puisqu'on parlait beaucoup d'Hong Sang-soo, on voit bien qu'il y a une nécessité pour Hong Sang-soo de faire du cinéma, de tourner ses films. On sent bien que chez Woody Allen, la nécessité, c'est de tourner pour continuer à vivre, sans doute. Mais c'est pas une question de survie existentielle, artistique, créative. Il y a quelque chose de l'ordre de
routine.
Enfin, c'est un peu dur de dire routine, mais en tout cas, voilà, c'est un mode de vie. Il ne change pas son train de vie. Mais quand il est dans cette veine purement comédie romantique, justement, pas dramatique, avec ses situations, avec ses dialogues qui vont vite, avec aussi quand même Elle Fanning, moi j'en suis très fan et je trouve qu'elle est assez méconnaissable, mais dans le bon sens du terme. Et Selena Gomez, j'ai trouvé formidable, de justesse, de précision, d'inquiétude un peu aussi. Enfin, je trouve que il arrive quand même à dégager des choses. Je suis pas fou de Timothée Chalamet, mais ça c'est une autre histoire. Je vais me faire gronder au bureau de la dispute. Charlotte Garçon.
Et moi, il me semblait que c'était justement quand il dévitalisait ces jeunes qu'il se passait quelque chose dans le film. Et justement, quand ce rythme effréné qu'on entend dans la bande-annonce et qui est en fait quand même pas du tout celui du film, forcément. C'est condensé, là, les répliques sont condensées. Et donc, je trouve qu'il est plutôt mal rythmé, le film. Et alors, quand il va loin dans cette arythmie et qu'il y a des moments de stase, là, je trouve qu'il peut se passer quelque chose émotionnellement. Et par exemple, à un moment, Timothée Chalamet se met au piano et joue le standard de Chet Baker, là, Everything Happens to Me. Et c'est bête, enfin, c'est aussi bête que les autres moments du film, dans le sens d'une sentimentalité un peu surannée, etc. Et en fait, là, parce qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de mot d'esprit à faire, il n'y a pas de... Il me semble qu'il laisse la situation se déployer dans un temps un peu mou, mais assumé comme tel, et ça fonctionne. Et d'autre part, la scène de confession de la mère au fils me semble aussi marquer ce temps d'arrêt et prendre un risque, du coup. Parce qu'on a le risque d'être ennuyé, justement, de ne pas être dans...
Ce ne sont pas des temps d'arrêt, Charlotte, quand même, ces temps-là.
Si, parce que tout à coup,
les nœuds dramaturgiques du film, dans les deux cas, sont
les
deux choses qui font vraiment avancer la narration.
Je trouve qu'ils assument de contredire le reste du film dans le sens d'une course, comme ça, d'une jeune fille qui fait boule de neige.
Enfin, sa richesse, à l'heure du film.
Oui, tout à fait. Et pour moi, c'est les meilleurs moments du film, parce que il y a dans ces moments une forme d'amertume. Et moi, c'est ça que je regrette, c'est que le film n'ait pas été justement plus amer à la Chaplin quand il tourne Un roi à New York. C'est-à-dire, vous voulez plus de moi, vous voulez plus que je tourne. Il y a une espèce de corps mort, voilà, qui se ferait sentir dans le film. Et il va pas jusque-là. Et juste du point de vue de New York lui-même, je trouve qu'il pointe quelque chose comme il l'a toujours pointé, mais il va pas assez loin, parce qu'aujourd'hui, New York, c'est une guerre entre les anti-intellectuels et les intellectuels. C'est un territoire, on pourrait dire, en guerre.
Et pas lui, que New York, hein, je vous ferai remarquer.
Non, mais bien sûr, mais c'est le lieu dans lequel la culture, au sens y compris ancien européen, peut encore être un enjeu de pouvoir très fort. Et elle vient de Tucson, en Arizona, le personnage joué par Elle Fanning. Et voilà, il pourrait se passer quelque chose de politique d'aujourd'hui, quoi. Et je trouve que ça reste quelque chose d'un petit peu faible dans le film. Et notamment, ils vont par exemple au Met, au Metropolitan, parce que
Selena Gomez,
voilà, habite en face, et ils prennent une espèce de bain de peinture. On a l'impression, voilà, toute la culture.
T'es content, c'est que du Renoir.
Oui, mais justement, on passe comme ça, parce que ce qui est important, c'est de dire New York est aussi un territoire de culture, et peu importe de distinguer les tableaux ou pas.
Sauf que lui, il veut aller au MoMA, elle va au Met. Elle dit que ça fait quelque chose, évidemment.
Oui,
oui.
Bien sûr.
C'est le choix de Woody Allen.
Oui, bien sûr. Mais ça aurait pu être polémique, je trouve, et ça l'est assez peu. C'est dommage.
Julien Gester.
Au fond, la tension, c'est peut-être un peu c'est le problème aussi du film, c'est-à-dire qu'on sent point à plusieurs endroits une forme de satire de cette très grande bourgeoisie new-yorkaise, ou d'ailleurs américaine en général, même si l'on distingue clairement, il y a toujours cette distinction. D'ailleurs, East et West Coast a toujours existé vraiment comme une dichotomie très au cœur du cinéma de Woody Allen. C'est l'exil californien désastreux de Annie Hall. Ça s'est rejoué dans pour le coup, c'est assez beau film qu'il a fait, le titre m'échappe, avec Jesse Eisenberg et Kristen Stewart, il y a 2-3 ans, qui avait ouvert le Festival de Cannes. Je ne retrouve
pas. Je ne l'ai pas vu.
Je suis désolé, par
exemple, alors, j'ai pas retrouvé.
Qui était pour le coup, un de ses plus réussis de ces dernières années.
J'ai cherché.
Et bref, voilà, cette tension entre, pour le coup, il va pas au bout de la caricature avec ce que serait Los Angeles, mais qui, je pense, est quand même plus sauvable à ses yeux, évidemment, que Tucson, Arizona.
Non, mais ce qui serait bien, c'est qu'il se fasse la caricature.
Café Society,
y compris des intellectuels.
Mais bien sûr, mais c'est tout le problème. Et il le pointe, c'est Café Society auquel je pensais. Mais c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on sent que ça pointe à différents endroits, et que, notamment, qu'il surligne vraiment ces grands appartements cossus new-yorkais sur Central Park dont vous parlez. Mais au fond, il est tellement rattrapé par l'idée de montrer que quand même New York, c'est au-dessus de tout, c'est au-dessus de ces gens d'Arizona qui confondent Shakespeare et Sinatra, et qu'au fond, la vie new-yorkaise est une œuvre d'art, qui a une continuité absolue entre les chefs-d'œuvre du Met, ceux qui sont montrés, de photographes new-yorkais qui montrent au MoMA, qui veulent à un moment donné visiter, et qu'on ne peut pas faire un pas dans la rue sans tomber sur un tournage, rentrer, sortir du cadre, dans une forme de continuité absolue, qu'il est incapable, au fond, de se confronter à ça. Il fait deux blagues sur la gentrification, et sur le fait que les artistes, après s'être éloignés de plus en plus du centre, vont finir par juste rentrer chez leurs parents. Mais au fond, on sent que l'acidité, il a conscience de ça, mais qu'il est incapable d'en faire quelque chose.
Dernier mot, Thierry Chaise.
Je pense qu'en effet, il ne fait pas un film en disant « Vous ne voulez pas que je filme, j'y vais quand même. » C'est ce qu'on dit dans les interviews.
Ça viendra peut-être.
Non, et c'est ce qui explique que ce soit, ça ne vienne pas comme on s'en fout de l'intérieur. C'est que c'est, de ces situations-là, il fait pareil une ou deux blagues expliquant que le journaliste, c'est le métier le plus vieux du monde. Voilà, c'est plus comme ça. Donc, il n'y a pas... Le film, en fait, vous attendez, je pense que ce n'est pas ce qu'il veut faire. Ce n'est pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il veut faire. Il y a une légèreté. Et il y a un renouvellement. Et il y a quand même ce plaisir de la direction d'acteur. Parce que si on parlait dans un film où si tout le monde est bon et si on redécouvre des gens, il y a quand même un chef d'orchestre et il reste un très bon chef d'orchestre.
Un jour de pluie à New York de Woody Allen est sur les écrans français. À suivre dans cette dispute, nous parlerons de Bacurao. Ne croyez surtout pas que je hurle et la trilogie de Long Island.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec Bacurao de Kleber Mendoza Filho et Giuliano Dornel. On connaît déjà le premier cité pour ses films Les Bruits de Recife et Aquarius, tous deux débattus dans cette émission. Le second était chef décorateur, justement, notamment de ses deux premiers films de cinéaste. Il co-signe ce nouveau film qui débute par un carton qui nous apprend que nous sommes dans le futur proche. Les habitants d'un village du nord-est est brésilien, un village très isolé, qui manque d'eau et qui se retrouve pour l'enterrement de la vieille Carmelita. On comprendra qu'elle était sans doute une sorte d'autorité, morale ou pas, du village. Village où cohabitent très paisiblement paysans, prostituées, professeurs, repris de justice. Mais alentour, un groupe... d'hommes armés rôde.
Que pensa por vivir, minha filha? Sua avó.
Parece que ela sabia de tudo.
Dois motoqueiros de trilha indo para Bacurau. Devem estar por aí em 12 minutos.
Tu viu alguma coisa estranha na estrada, não?
Não, não vi não, por quê?
É engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né?
Como não tá no mapa?
É Bacurau.
A gente vai morrer.
Tô aqui pra pedir ajuda de vocês.
Quem foi que fez isso?
Não sei, Longa. Mataram 7 de ontem pra hoje.
Por que vocês estão fazendo isso?
Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu.
This world upside down. We are on a countdown now.
Pai, quem foi que fez isso?
Você quer viver ou morrer?
Bacurao, je viens de vérifier encore, la musique n'est vraiment pas de John Carpenter, mais ça y ressemble. Premier tour de table, Jean-Le Garçon.
Mais il me semble qu'il y a un morceau de l'album, du seul album de John Carpenter.
Du premier album, qu'on a sorti un deuxième depuis. Ouais.
De celui de 2015.
Mais qui n'enlève pas de la musique originale, qui est en musique additionnelle.
C'est sa musique, celle qui joue en concert, John Carpenter, il y a encore quelques mois, à Paris. Bon,
morceau
d'accord.
Qui s'appelle Night.
Night. Allez, premier tour de table sur ce Bacurao, Thierry Chaise.
Un mélange des genres très ambitieux, mais pas toujours heureux pour moi.
Julien Gester.
Je trouve ça très heureux, au contraire.
Charlotte Garçon.
Oui, énergique et un peu indigeste aussi pour moi.
Bon, allez, Thierry Chaise va commencer à nous dire sa demi-déception.
En fait, c'est un peu comme tout à l'heure Woody Allen, c'est... Je dirais que je ne m'attendais pas à ce film-là. Moi, je suis un grand... j'adore Aquarius notamment et j'aimais cette manière de parler déjà de territoire et de résistance, finalement, qui est son grand domaine et que d'un seul coup...
C'est le cas des Bruits de Recife.
Les Bruits de Recife, voilà, et ce sujet-là. Alors, là, il le fait et en même temps, c'est bien parce qu'il sort d'une zone de confort qu'il maîtrise en allant sur plusieurs genres, à travers ce village, peu à peu gommé de la carte... Où d'un seul coup, on va avoir du western, on va avoir un revenge movie, on va avoir un peu de science-fiction. On va pour moi aller quasiment vers de la série Z avec le groupe d'Américains entraînés par Udo Kier. Il y a, c'est-à-dire que sur un sujet que je trouve extrêmement fort, qui arrive en plus au moment où Bolsonaro arrive, donc il y a quelque chose de... Le film, il y a un temps d'action, on peut pas dire que c'est un film sur Bolsonaro, sauf que il est totalement dans son air du temps, et ce côté mélange absolu de bruit, de fureur, est l'inverse de tout ce que j'ai aimé dans les précédents films. C'est-à-dire que je me dis, c'est bien de changer, c'est bien de tout vouloir mélanger, mais que d'un seul coup, ce mélange à certains moments fait qu'en effet, j'ai du mal, moi, à digérer, il y a des choses que je trouve ne passent pas, il y a un côté, une exagération qui met au bout du compte très pénible. Donc je regarde ça en me disant bravo, j'aime l'idée d'aller vers d'autres territoires, mais je quitte le film très régulièrement.
Julien Gester, pour la parole de la défense, a priori.
je reconnais que dans ce que dit Thierry Chaise, à la fois une surprise qui était la mienne à la découverte du film, et qui je pense explique aussi en partie la... Parce qu'il est intéressant, c'est que quand on regarde l'accueil critique du film au Brésil, il y a une recomposition totale du paysage médiatique par rapport au film précédent de Kleber Mendonça Filho, qui a pu être là soutenu par des gens qui étaient ces farouches détracteurs sur Aquarius, par exemple, qui est une critique notamment tout ce qui relève de l'environnement médiatique de l'énorme conglomérat Globo, qui a plutôt soutenu le film, mais qui a aujourd'hui, qui, si je ne me trompe pas, parce que je suis pas expert du système politique brésilien, enfin du paysage politique brésilien, mais il me semble que ça correspond aussi à une manière, à une certaine droite qui à un moment donné avait fait de la gauche sa priorité, et puis maintenant en fait fait de même avec l'extrême droite, et du coup est beaucoup plus complaisante avec ses anciens ennemis. Et de la même façon, il y a dans la critique plutôt progressiste et qui avait été plutôt louangeuse des premiers films de Kleber Mendonça Filho, il y a eu pu avoir des réserves qui étaient exprimées, qui allaient jusqu'à le qualifier le film de recourir à une forme de bolsonarisme de gauche. Et c'est vrai
qu'il doit être violent quand
on
reçoit ça.
Absolument, d'autant qu'on il faut dire à quel point en fait le film quelque part se présente comme une anticipation à courte vue, enfin dans quelques années, et en même temps a presque été rattrapé. Je crois que c'est le co-réalisateur de Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles, qui parlait au moment de Cannes de course contre la réalité. Quand le film s'est fait, je pense qu'ils avaient deux trois choses en tête, comme Donald Trump, et puis voilà. Mais évidemment, le film précède l'élection dans sa fabrication de Jair Bolsonaro, et ensemble en même temps l'écho direct. Et ce qui peut déstabiliser face au film, par rapport à quand on a aimé les deux précédents de Kleber Mendonça Filho, notamment pour leur grande subtilité, leur grande finesse, c'est que ici clairement ils remisent tout ça pour aller dans un registre qui ne l'appelle pas forcément, qui est celui, je dirais, plutôt de la série B que de la série Z, même s'il en reprend des codes de la série. Et en effet, sur un terrain très carpenterien, de fables d'anticipation qui touche au grotesque, quitte à caricaturer les forces en présence, quitte à, et je pense que c'est ce qui a pu lui être reproché, binariser un peu l'opposition. Et en même temps, je trouve le film extrêmement fin dans un endroit qui n'est pas celui de sa dramaturgie, qui n'est pas forcément celui de la caractérisation des assaillants ici, mais dans la manière dont il fait exister sa communauté, dont il impose différentes figures très nombreuses en très peu de temps, qui vont être la peuplade de cette sorte de zone à défendre à tout prix et furieusement, et en ayant l'intelligence, et je pense que c'est sa grande intelligence politique historique, même si c'est pas forcément une chose très originale à dire comme je vais le faire, mais de presque de se tirer le tapis sous le pied à toute forme d'analyse, de diagnostic en caractère visionnaire ou prophétique, puisqu'au fond ce que le film nous dit, et je pense que ce n'est pas dévoiler tout à fait son épilogue que de dire, mais au fond l'espèce de leçon du film, c'est de dire que c'est avec les armes du passé, les luttes passées, qu'au fond il faut combattre l'éternel retour dans une histoire à boucle de la menace du fascisme à venir.
Charlotte Garçon sur Bacurau.
Oui, mais justement ce dernier point, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le passé pour résister, il me semble que c'est très cohérent avec ses films précédents, justement, et qui, moi, me posait déjà problème, en fait, dans ses films précédents, et notamment Aquarius. Peut-être on en reste à Aquarius, parce que c'est celui qui est le plus... Qui les auditeurs,
le plus connu, oui.
Le plus en tête. Et où, moi, j'étais restée sur quelque chose d'assez désagréable, de finalement, cette idée que c'est la bourgeoisie cultivée qui doit absolument faire face aux assauts, à l'assaut, et j'emploie ce terme carpentérien à dessein, des nouveaux riches. Et que finalement, ça voulait dire que c'est quand même des héritiers. C'est des héritiers culturels qui sont les héros des films de Mendoza Filho. Donc j'ai eu cette même impression et qui est là effectivement.
C'est tous ces films de Aquarius précisément.
Oui, il me semble qu'il y avait déjà dans les bruits de Recife, qui est, le souvenir est plus lointain, mais aussi une sorte de coup de force cette fois-ci sur les genres. Le film tout à coup passé dans un thriller qui mélangeait déjà la question du colonialisme, la peur sécuritaire, enfin les enjeux sécuritaires dans les grandes villes, etc. Et donc là aussi, le coup de force, il est dépassé dès le début, puisqu'il y a ce cocktail d'un cinéma presque ethnographique avec le cinéma nouveau, avec le cinéma américain de genre, etc. Et c'est un millefeuille extrêmement riche. Donc a priori, moi je serais plutôt curieuse et intéressée par tout ce feuilleté, et effectivement assez vite tout de même le manichéisme et le fait que résister ça veut dire s'opposer à l'autre, défendre un territoire, etc. Gagne, parce que pourquoi représenter les États-Uniens, parce que c'est vraiment des États-Uniens comme ça, comme des dégénérés qui jouent aux jeux vidéo. Alors on peut toujours prendre l'idée que tout ça se réfère à tel ou tel genre, mais pour moi ça ne sauve pas une pauvreté, y compris dramaturgique, et notamment des scènes d'action et de le dénouement. Donc il ne faut pas trop révéler la teneur. Et quand vous disiez que ce sont les armes du passé qui vont être utilisées pour résister, c'est une belle idée. En plus, historiquement, elle est tout à fait
pertinente
et plausible. Mais comme par hasard, une fois de plus, il faut être héritier. Il faut avoir hérité de quelque chose, au moins culturellement, pour...
Influence politiquement, plutôt.
Oui, mais c'est finalement idéalisation des...
Le profil sociologique que vous dénonciez, pour le coup, dans Aquarius, n'est pas du tout celui ni des personnages des Beaux Récifs, ni de ce film-là.
Non, mais le point commun, c'est toujours le passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'invention, sur le moment de quelque chose dans cette résistance, je trouve. Mais après, c'est normalement dans la mise en scène et dans le traitement de cette séquence finale d'action, de duel un peu final, qu'il faudrait que ça s'invente. Moi, je ne l'ai pas vu.
Oui, comme chez Woody Allen, il faut passer par le musée, on verra. Ça dans Bacurau. Mais c'est vrai que ce découpage, parce qu'il est quand même aussi, on pourrait dire très clairement, deux parties, exposition, explosion, pour dire ça comme ça, un peu rapidement, moi j'ai trouvé quand même assez bancal, parce que contrairement à votre sentiment ou votre ressenti, Julien Lester, moi je trouve qu'il n'y a aucun personnage n'existe. Et c'est un peu, c'est pour moi, l'un des principaux problèmes du film, c'est-à-dire que on commence avec cette femme qui revient dans ce camion-citerne à la porte des vaccins, des médicaments, on se dit qu'on va peut-être se polariser sur elle, et puis on passe au père qui lui est le prof, et puis après on va voir un bandit, enfin c'est plus qu'un bandit, c'est un assassin dont les habitants regardent les meurtres en boucle sur YouTube. C'est quand même un peu curieux que tout ça se mélange sans regard. Je ne voudrais pas forcément mettre de la morale partout, mais je trouve que c'est quand même un petit peu curieux. Et en face, on a ces États-Uniens qui ne sont pas beaucoup plus dessinés, ils sont quand même tous dans une forme de caricature. Du coup, moi, ça, je trouve que c'est très artificiel, que ça pose quand même pas mal de questions, mais que ça n'apporte jamais de réponse. Et du coup, on va dire, l'explosion est censée apporter une jouissance au spectateur façon Tarantino, parce qu'il y a quand même aussi ça qui est en arrière-plan. Et je trouve, du coup, elle fonctionne pas non plus, parce qu'il n'y a pas d'empathie, ni pour les uns, ni pour les autres. Et qu'au final, moi, j'ai l'impression que ça renvoie plutôt dos à dos les tueurs de l'âge nouveau et les tueurs archaïques. Et que du coup, qu'est-ce que ça raconte au final, ce film-là, Charlotte Garçon?
Alors là, pour le coup, moi, je crois comprendre que souvent, enfin, pour les quelques documentaires que j'ai vus sur cette région-là, justement, sur l'arrière-pays aride, avec les sans-terres, etc., toute la question des sans-terres, le certain, c'est que, en fait, c'est vrai que les gens sont souvent représentés comme des victimes qu'ils sont. C'est-à-dire, ils n'ont rien, ils sont délaissés par l'État, voire ça nous arrangerait bien qu'ils n'existent plus, etc. Et donc, malgré eux, ces documentaires-là, ethnographiques, on pourrait dire, les adoucissent et en font des victimes. Et j'ai l'impression que ce qu'il veut, c'est montrer que eux aussi, ils ont une vitalité violente, une violence, et qu'ils l'appuisent et dans leur histoire récente, et dans, par exemple, le psychotrope qui est du coin, ils vont l'utiliser, etc. Et que donc, voilà, ils ont aussi leurs bandits, ils ont leurs braqueurs. C'est pas des gentils, c'est pas les gentils contre les méchants, c'est comment... Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais je suis, comme vous, pas très convaincue par
ça. Je trouve ça difficile de pas ressentir pour le coup de l'empathie. Enfin, après, c'est comme vous le disiez...
Ah si, parce que le film, il choisit son camp, donc on est du côté du village.
Mais de pas ressentir l'empathie d'une communauté, vis-à-vis d'une communauté qui vit paisiblement sa vie.
Elle n'existe pas pour moi, cette communauté. Je vois des silhouettes.
Ça fait partie des talents de ce cinéaste, mais là-dessus, nous ne pouvons qu'opposer nos ressentis, manifestement.
Absolument.
D'arriver
je ne suis pas seul, genre garçon.
À camper à très peu de traits, justement. C'était déjà ce qui réussissait dans les Bruits de Récif, faire exister des figures à travers très peu de situations. Et pour le coup, ça tient aussi au choix des acteurs. Notamment, mais je trouve qu'il y parvient et que, pour le coup, par ailleurs, simplement la situation qu'il décrit, qu'il dessine, je trouve, a priori, flèche un peu l'empathie du
spectateur. Ah bah oui, complètement. Elle est fléchée, mais c'est pas pour autant qu'elle fonctionne.
Mais je trouve qu'elle l'est fait aussi par la mise en scène que, contrairement à Charles Garçon, je trouve très réussie dans le dernier mouvement. Voilà.
Bon, allez voir par vous-même hein, Bacurao de Kleber Mendoza Filho et Juliano Dornelles. La grande table de lundi dernier recevait ces deux réalisateurs. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur le site de France Culture ou bien la podcaster.
Give me a kiss.
Oh, let me out of here. You can keep the money.
Hey, I don't want the money. I want a kiss.
You can't have both.
All right, here's the $5. Now give me a kiss. On the lips.
Drop dead.
Tomorrow, the first good-looking woman I see, I'm not gonna fall in love with her.
C'est l'heure du coup de cœur, et ce soir, c'est moi qui... qui est un coup de cœur, c'est assez rare, mais je ne pouvais pas laisser passer la ressortie en salle des trois premiers longs métrages d'Al Hartley, alors qu'ils ont été réunis sous ce titre de Long Island Trilogy, la trilogie de Long Island, je traduis directement, de l'anglais au français, c'est-à-dire dans l'ordre Unbelievable Truth, Trust Me et Simple Man. Ils sont ressortis mercredi dernier. Alors pour moi, c'est un immense bonheur et c'est aussi quand même de la tristesse. Voilà pourquoi je voulais aussi en parler. Ces films-là, ils ont été réalisés entre 89 et 92. Ils marquent vraiment, il me semble, quelque chose d'important dans l'apparition d'un nouveau cinéma indépendant américain. Ils ont tous trois bien des points communs, donc à commencer par Long Island comme cadre principal. Beaucoup de comédiens aussi qu'on va retrouver de film en film et presque à chaque fois dans le même rôle, puisqu'à chaque fois on va rencontrer un héros sombre, mélancolique, qui est hanté par le souvenir d'une mort brutale, mais qui est aussi capable, ce héros, de tout réparer, ce qui est très pratique. Il répare des voitures, des téléviseurs, des machines à coudre. Ça, c'est la figure du héros dans ces trois premiers films. Il y a toujours aussi des jeunes femmes faussement ingénues, mais qui sont toujours éperdument passionnées. Les garçons comme les filles chez Al Hartley sont toujours très beaux, qui quand même ne gâte rien, des très beaux hommes, très belles femmes, ils se rencontrent, ils s'aiment, ils se questionnent devant la caméra avec pour moi infiniment de grâce, de légèreté, un sens du dialogue étourdissant, enfin des dialogues de sourds bien souvent et des dialogues qui peuvent se répéter. Alors évidemment c'est très très inspiré par la nouvelle vague. On se dit que Jean-Luc Godard a donc eu un fils caché aux États-Unis, que c'est donc Al Hartley. Alors à la façon de Kleber Mendoza Filho, on pourrait dire qu'il y a à chaque fois plusieurs genres. Il y a de la comédie, il y a du drame, il y a du film policier dans les films d'Al Hartley. Mais justement, ils s'affranchissent de la question du genre et ils sont pour moi aussi émouvants que drôles. Ils sont toujours surprenants aussi. On se demande toujours quelle séquence va succéder à la précédente. C'est très, très étrange. Donc ça, ce sont les trois premiers films d'Al Hartley. Alors, le quatrième, Amateur, mettez Isabelle Huppert en vedette. Isabelle Huppert avait écrit, comme elle l'a fait souvent, avec Hong Sang-soo et d'autres, pour dire j'aime beaucoup ce que vous faites, si vous voulez tourner avec moi, c'est quand vous voulez. Donc elle l'avait fait. Et puis son sixième long métrage, Henry Fool, avait remporté le prix du scénario au Festival de Cannes. Et depuis, Il continue de tourner à l'Artley, mais plus aucun film n'est sorti en salle en France depuis donc 20 ans déjà. Il y a eu une sortie en DVD d'un de ses films. C'est vraiment le cinéaste le plus indépendant qui soit, puisqu'il a créé sa plateforme internet sur laquelle on peut acheter le visionnage de ses films. Il fait des financements participatifs. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez... C'est terrible, c'est pour ça que c'est merveilleux d'avoir l'occasion de retrouver ces films-là en salle. Et en même temps, c'est triste parce que c'est pour moi une œuvre pour partir en péché. Et du coup, c'est un peu amer de voir tout cela. Mais si on n'avait pas vu les films à l'époque, qu'on soit trop jeune ou qu'on les ait ratés, ils étaient invisibles pour des histoires de droit encore. Voilà. Comme le cinéma, on a beaucoup. Mais si, on ne sait jamais si ces films-là marchent en salle. Que le public français fait bon accueil. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de voir d'autres films d'Alain Hartley, voire de nouveaux films d'Alain Hartley qui seraient produits du côté de chez nous? En tout cas, il faut y aller pour découvrir ces films. Vous opinez visiblement à ce choix de coup de cœur. J'ai votre approbation. Bon, eh ben j'en suis très heureux.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Le dernier film à notre affiche, c'est Ne croyez surtout pas que je hurle de Franck Beauvais. Franck Beauvais qui, à l'issue d'une rupture sentimentale, se trouve dans une profonde dépression, on va dire ça comme ça. Incapable de rien d'autre, il dit qu'il ne regarde à ce moment-là 4 ou 5 films par jour. Et un carton, d'ailleurs, au début du film dont on va parler, nous indique ceci. C'est le cinéaste narrateur qui s'exprime. J'ai vu plus de 400 films entre avril et octobre 2016. Les images qui suivent en sont toutes issues.
J'aborde le début d'année avec un mélange confus d'appréhension, de dégoût et de peur. Le pays, celui des journaux, des informations, celui des villes surtout, est toujours en état d'urgence. Les tenants du pouvoir entretiennent leur meilleur allié, la peur, à grand renfort de contrôle policier, de surveillance militaire, de perquisition. À Strasbourg, comme sur l'ensemble du territoire, on a commencé à se mettre debout la nuit en réaction à la morgue d'un gouvernement qui n'a d'autre couleur que celle du capital. Je suis intrigué par ces rassemblements citoyens et songe même, par moments, à aller y voir de plus près. Mais je sais confusément que je n'y ai pas ma place et je sens la partie perdue d'avance. Alors, je ferme les volets, j'éteins les lumières, et je retourne à mon écran, le lieu des obsessions magnifiques où les mirages de la vie se teintent de sublime. Je ne vois plus de monde. Je ne vois plus le monde. J'essaie de le penser à travers les films seuls que je vois jour et nuit.
Ne croyez surtout pas que je hurle de Franck Beauvais sur quelques écrans. Depuis mercredi, un premier rapide tour de table, Julien Gester.
Un des plus beaux films, je pense qu'on puisse imaginer, sur ce que le film nomme la cinéfolie.
Charlotte Garçon.
Oui, je n'ai pas préparé de... C'est un film très angoissant et en même temps qui fraye une voix. Donc on en revient. Je veux dire aux gens qui y vont qu'ils en reviendront malgré tout.
On peut l'entendre de différentes façons, méfiez-vous, on vous préciserez votre pensée dans un instant. Thierry Chaise.
Une litanie totalement envoûtante, c'est un des plus grands films de l'année.
Bon, et on est en septembre, donc il y en a déjà quelques-uns qui sont passés, fin septembre même. Alors, on va expliquer un peu plus, Julien Gester, j'ai donné le principe qui s'énonce. Toutes les images de ce film ne sont pas les images filmées par Franck Beauvais, mais prélevées par Franck Beauvais, et tout au long du film, il y aura cette voix off,
coupée de leur son, et donc est couverte de cette litanie, de ce monologue du cinéaste, d'une voix blanche que la bande-annonce, l'extrait qu'on vient d'entendre illustrait assez bien.
Alors, le texte est publié chez Capricci, pour ceux qui voudraient lire Franck Beauvais.
Magnifique. Et le film, il faut le dire, raconte à la fois un déraillement, c'est le point de départ d'un projet, qui s'était mis en place, que voilà, cette voix raconte de un emménagement à la campagne, dans une campagne relativement profonde, qui est en Alsace-Bossue, dans les Vosges, qui est une région magnifique, il faut le dire.
Ah oui, je suis
mais
d'accord. Où la petite pierre est un des endroits les plus beaux que je connaisse.
Où Franck Beauvais se sent assez vite moins à son aise qu'on peut l'être, qui ressent, qui lui inspire une certaine forme de terreur et d'angoisse de par l'entretien, une forme de folklorisme rance, qui se traduit d'ailleurs dans les urnes.
Ne retournez pas tout de suite en Alsace-Bossue, là. Une identité régionale forte, on pourrait dire.
Je suis moi-même alsacien, mais
ça ne parle qu'alsacien.
J'aime beaucoup. Non, c'est pas seulement ce qu'il décrit.
Il le dit dès le départ.
Voilà, il décrit un certain nombre de choses, de particularisme et de fierté régionale mal placée, qui compose une vie dans laquelle il a beaucoup de mal à s'identifier et reconnaître. Et ce projet de s'installer dans cette région, dans un appartement, je crois, de famille, pour être plus proche de la nature, avec son compagnon, à une demi-heure de la gare la plus proche, etc., déraille lorsque survient la séparation de ce couple. Et à partir de là, non seulement, évidemment, il doit faire face aux conséquences intimes, psychologiques, de la séparation, mais aussi il se trouve coincé littéralement dans un trou dans lequel il s'est mis lui-même, qui n'est pas tant le village dans lequel il vit que un ensemble de paramètres à la fois matériels et existentiels qui le tirent vers le fond de la dépression. Et il trouve à partir de là un refuge, c'est ce qu'il décrit donc dans ses films sur lesquels il va prélever des images, souvent des plans assez courts qui s'enchaînent. Je pense qu'il faut nommer l'autre grand artisan de ce film, qui est le monteur Thomas Marchand, avec qui il a assemblé donc ce long métrage d'1h15 à peu près. Et ce qui est très beau, c'est que au cinéma, enfin dans le lexique un peu sérieux de la théorie critique du cinéma, on parle en général de hors-champ pour désigner ce qui se joue dans la fiction en dehors du cadre, et on parle de hors-cadre pour parler de ce qui se joue sur le plateau, mais qui ne figure pas dans le champ de l'image. Le film mobilise profondément un autre hors-cadre, qui est celui du spectateur. C'est-à-dire où le spectateur, forcément, on est tous actifs face à l'image, dans la manière dont on reçoit les films. Le spectateur a lui-même son propre hors-cadre, qui en l'occurrence est cet appartement dans lequel il dépérit, en tout cas psychologiquement, où il fuit les miroirs et où il cherche absolument à s'oublier ou à oublier ces jours qui passent. Et ce qui est très beau dans le film, c'est que le film nous invite au fond à la fois à arpenter cette contrée très noire dans laquelle il est, très troublante et vertigineuse, et alors qu'on s'y sent un peu, qu'on y retrouve peut-être quelque chose qu'on identifie, et en même temps à observer à quel point elle nous invite dans cette perte de soi, au fond, à l'intérieur des plans, pour annihiler ce hors-cadre, justement, du spectateur, qui fait exister par la voix off, mais au fond, auquel on n'aura jamais accès, puisque ce film sans caméra, au fond, sa finalité, c'est de se perdre totalement dans ces images, même qui illustrent parfois, et puis qui d'autres fois jurent avec ce qui est dit, et qui sont interrompues par des noirs qui sont de plus en plus longs au cours du film, où on peut penser que, paradoxalement, dans un renversement de ce que serait cette figure dans d'autres films, c'est la vie qui rentre, qui revient, qui renaît, qui rejaillit. Et il faut le dire, à la fin, Franck Beauvais se sent mieux, et nous aussi.
Donc on en revient, Charlotte Garçon.
Oui, parce que ça me rappelle ce moment dans La Talente de Jean Vigo, enfin ce moment récurrent où il y a une sorte de superstition, de croyance qui est que si on plonge la tête dans l'eau, on va voir l'être aimé. Et le marinier dans La Talente dit à sa femme, c'est une superstition, c'est n'importe quoi, etc. Il le fait et ça marche pas. Et puis quand il arrive vraiment au fond du trou parce qu'elle l'a quitté, mais là il plonge complètement dans la scène et là il la voit. Et j'ai eu cette impression avec ce film, c'est-à-dire qu'il fallait effectivement aller au fond du fond du fond du fond, et que ce qui n'est pas un journal, et c'est très important que ce soit un texte rétrospectif et non pas un journal, travaille cela, c'est-à-dire dans l'écriture, crée une dramaturgie de à quel moment on est vraiment au fond. Et pour moi, en tout cas, c'est ce que j'y ai ressenti, je n'ai pas calculé les time codes de ce moment-là, mais pour moi, c'est le moment où il est question de la mort de son père. Parce que c'est le moment où un spectateur meurt. Mmh. Et vous disiez qu'il réfléchit sur nous, spectateurs, en train de voir le film. Et c'est là où on se dit, mais en fait, oui, nous aussi, nous pouvons mourir devant un film, puisqu'il se trouve que, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais en tout cas, son père serait mort devant un film. Comment peut-on mourir devant un film, demande-t-il. Et pourquoi Le ciel est à vous,
de Jean Grémillon,
où il est question, par ailleurs, dans mon souvenir, de piano, de lourdeur et de légèreté. Mais enfin, c'est une autre... Du coup, on se dit, il y a un lien entre la place du spectateur et la place du mort en voiture. Et en tant que le spectateur est le passager, justement, et non pas quelqu'un d'actif. Et que cette inactivité supposée du spectateur, parce qu'on sait que ça travaille là-dedans, mais quand même, il la pousse tellement loin, parce qu'il est dans cet état profondément mélancolique. J'ai l'impression que ce soir, on ne parle que de mélancolie, mais c'est vrai, c'est des nuances de fiel et de spleen. Il trouve le lien fondamental et presque théorique au cinéma entre la mort et le fait d'être spectateur. Et ça, c'est très fort et c'est très écrit, j'allais dire. Ça n'est pas, disons que ça dépasse le film thérapeutique ou d'autothérapie qui serait quand même un peu limité. Bon.
Thierry Chaise. Bon, peut-être après.
Non, mais c'est vrai que.
Il reste du temps.
On pourrait se dire, il y a vraiment. Ça pourrait être tous les écueils possibles. Il pourrait y avoir ce film thérapie. Il pourrait y avoir le gadget de ce mash-up géant et tout. Moi, en tous les cas, on est happé dès la première seconde où on ne sait plus où donner des yeux et des oreilles. Moi, je rejoins Julia Jaster sur la beauté de ce texte qui m'a expliqué avoir écrit en extrêmement peu de temps et que je trouve mais qui vous emporte et d'un seul coup ces bouts de film découpés, cette croyance que le cinéma va constituer une sorte de possible fil d'Ariane pour sortir de la brume. Quel film? Alors il y a le quand je dis on sait plus où donner les yeux et les oreilles, c'est que par moment on se dit mais ça appartient à quel film, et puis on revient toujours à cette histoire et en effet on va sortir de là avec lui. On va l'accompagner. C'est quelque chose qui raconte. Il se raconte lui. Il raconte une époque. On parle de Nuit debout. On parle de choses. Et à chaque fois, tout parvient au bon moment. À chaque fois, le mot et l'image s'associent et le travail du monteur est dingue pour arriver à 1h15, totalement fascinante. La seule chanson qu'on entend. On l'entend à la fin, c'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas sur un autre artifice qui fait que non, on a vraiment et foi en le cinéma, et foi en le texte qu'on vient d'écrire, et foi en le spectateur qui est capable de réunir ces deux-là. Et à la fin, presque comme une récompense, il y a cette magnifique chanson qui a été citée. Je trouve qu'on est impliqué, en fait, dès la première seconde dans quelque chose qui, du coup, n'est jamais justement une auto-fiction. Mais c'est... c'est dingue. Voilà, moi j'ai vécu une expérience dingue avec ce film.
Alors pour moi, ça n'a pas été la première seconde. Pour moi, le film commence à la mort du père, en effet, parce que il y a quand même. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal. C'est évident qu'il faut que ce soit lui qui le dise, mais j'ai du mal avec cette voix blanche qui me met à distance et qui peut m'insupporter assez facilement. Donc, il faut le temps aussi de rentrer vraiment dans le récit et dans ce texte. Et vraiment, j'invite à le lire. C'est, je rappelle, édité chez Capricci. Parce qu'il y a une matière textuelle vraiment très belle. Et puis, il y a ce geste. Ce geste, il est, on peut que s'incliner, enfin, au sens vraiment chapeau bas, quoi, d'un geste pareil d'amour du cinéma, d'amour de la vie et de cinéfolie, c'est ça que vous dites.
C'est lui qui l'emploie. Il raconte comment cinéma rend malade aussi. C'est c'est le récit d'un sauvetage.
Pharmacone, quoi. Poison et remède.
D'un sauvetage, mais qui passe d'abord par l'inoculation d'un venin qui fait écran à tout le reste. Ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, très brièvement, c'est à quel point le film donc raconte un trajet qui est le sien, intime, où il y a des deuils, une séparation, etc., qui sont des choses que par ailleurs. Toute personne autre, enfin, qui peuvent voir le film, peuvent avoir vécu dans ce temps-là, de cette période-là, de quelques mois ou pas. Mais il parle immensément, je pense, de nous aussi, en racontant donc une chronologie. La litanie, ce n'est pas seulement celle des films, des choses qui l'angoissent dans l'immédiat dehors de ce village ou de cet appartement, mais c'est aussi beaucoup, c'est une litanie d'attentats,
d'état d'urgence,
d'événements, d'état d'urgence, de glissement vers une perte générale des libertés. Et un moment, je pense qu'on a pu vivre en fonction des paramètres existentiels de chacun, plus ou moins distraitement et ou de manière plus ou moins soucieuse. Mais je pense qu'il raconte quand même un moment d'enfoncement qui a pu être ressenti à divers degrés par absolument tout le monde. Et c'est, on est loin du journal intime à cet égard-là aussi.
Charlotte Garçon, pour conclure.
C'est vrai que se laisser traverser par tous ces fragments fait qu'en fait, il y a l'extériorité qui revient de manière inattendue. Et d'ailleurs, ces fragments font penser au travail de Roland Barthes, par exemple, qui a beaucoup mis les choses en fiche, qui a beaucoup classé, qui parlait de l'acédie aussi. Donc il y a un lien entre fragmenter les choses, les classer, les compiler, et être dans cet état, et en tirer quelque chose ensuite. Et pour moi, c'est justement le rapport à la culture surannée de Woody Allen, et là, l'inverse, puisque les films sont anonymisés. Enfin, effectivement, on essaye au début d'en reconnaître, puis après, on s'aperçoit que c'est pas l'enjeu du film.
Ne croyez surtout pas que Je hurle de Franck Beauvais est sorti mercredi dernier. C'est mercredi que Marie Richeux, toujours elle, recevait Franck Beauvais dans Paris Temps qui court. Là aussi, on peut réécouter ou podcaster cette émission sur le site de France Culture. Avant de conclure le jeu de la dispute avec David Dana, rappel de la question d'hier et sa réponse d'abord.
Sur quelle île a été tourné le film Los Silencios? Et la réponse est la Isla de la Fantasia.
Ce soir, des invitations à gagner pour l'exposition Cabinet de Curiosité. C'est au fond Hélène et Édouard Leclerc pour la culture à Landerneau. C'est jusqu'au 3 novembre. La question?
Qui est le commissaire de l'exposition Cabinet de Curiosité?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et David Dana. Prise de son ce soir, Adèle Kaglar. Réalisation, Alexandre Fougeron. On se retrouve lundi à 19h pour une dispute théâtre. Je serai avec Lucille Como, Lily Blum et Marie Sorbier. Nous parlerons du Misanthrope de Molière, mise en scène par Alain Françon, La Dame de chez Maxime de Georges Feydeau, mise en scène Zabou Bretman, pièce d'actualité numéro 14 dévoilée, mise en scène Richard Maxwell et On s'en va de Christophe Warlikowski.